Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Vivre avec les blessures, ce sont deux victimes que vous découvrez cette semaine au micro de cette série des clés pour vivre avec Jean-Marie Delbos, tout d'abord auteur de ce livre paru récemment. Si vous voulez, chers auditeurs, mieux comprendre l'histoire et l'affaire de Betaram, cet ouvrage qui relate le parcours de Jean-Marie Delbos. Et très bien, parce qu'au fond, ce qu'il faut retenir aujourd'hui et cette semaine de cette série, que c'est simplement une parole de vérité pour la protection des enfants et que ce n'est nullement une série pour attaquer directement l'Église catholique ou les prêtres. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marie Delbos ?
Absolument.
Important de le redire. Absolument. Alors, vivre avec les blessures, je voudrais que nous revenions durant quelques minutes aujourd'hui sur comment, après avoir été victime d'un prêtre pédophile en soutane, donc on parle bien d'un crime.
Oui, hein,
d'un crime. Quelles sont les conséquences d'un tel crime et comment on traverse, comment on survit, comment on vit tout simplement avec des blessures. Et qui s'inscrivent, et nous l'entendrons certainement, avec Marie-Hélène, à vie. Alors, on vous écoute, Jean-Marie.
Mais il faut avoir une force de caractère. Et je reviendrai toujours à ma grand-mère. C'est elle qui m'a donné cette force de caractère. Et c'est vrai que toute la vie, je ne peux pas passer 5 minutes sans penser à Betaram. Parce qu'on me dit on oublie. Mais ce n'est pas vrai, on n'oublie pas. Quand vous avez subi ce genre de choses, vous ne pouvez pas oublier. Quand je me couche le soir et je me dis dire que ce gars-là, eh bien, il est toujours en vie, lui, par contre. Bon, mais moi, personnellement, j'y ai pensé toute ma vie. J'en ai parlé toute ma vie. Dans ma profession, je disais, mais prenez ma plainte. On ne voulait pas la prendre. Parce que dans la police, il y avait des histoires, mais des gens qui sont très travailleurs. Mais les gens, s'ils prenaient une plainte, ça faisait du boulot. Donc, ils n'allaient pas le faire. Et donc, toute ma vie, on m'a dit, mais non, il faut oublier. Mais on n'oublie pas. Alors quand j'entends les gens qui disent « il faut oublier », mais vous allez oublier quoi ? Quand c'est quelque chose de grave, quand c'est une pécadille, bien sûr vous allez l'oublier. Mais moi, par contre, Betaram m'a donné quelque chose qui est terrible, parce que je ne sais pas pardonner. Moi, pardonner, je ne sais pas. Donc si quelqu'un me fait une vacherie, il est fini à vie avec moi. Je ne vais pas revenir en disant « Mais tu sais, je me suis trompé, t'es un brave homme, t'es... ou une brave dame. » Je dis « Non, vous êtes pourri, t'es réminé. Avec moi, c'est terminé. Je ne sais pas pardonner. »
Ce sont les conséquences directes de ces abus que vous avez subis durant 5 ans, de vos 10 ans à vos 15 ans à Betaram.
À Betaram, voilà. Et il a voulu me rencontrer, parce qu'il est toujours en vie. Il a voulu me rencontrer, donc il m'a envoyé une lettre pour me rencontrer, mais pour ceux qui connaissent Betaram, sur la croix des hauteurs, là où sont enterrés tous les curés de Betaram. Et vous imaginez que tout le monde m'a dit, mais n'y va pas. N'y va pas, parce que s'il tombe et qu'on t'accuse de l'avoir fait tomber, c'est toi qui vas aller en prison. C'est pas lui qui va aller en prison, c'est toi. La loi française est telle que les victimes peuvent se retrouver hauteurs et se retrouver condamnées. Et donc, je ne lui ai pas répondu, je lui ai dit, mais il faut faire avec la justice restaurative. Et la justice restaurative l'a contacté, mais il a refusé de parler avec les gens de la justice restaurative. Et donc, vous imaginez bien que puisqu'il ne veut pas parler à la justice restaurative, moi, ça a été fini, je n'ai plus de contact, je n'en veux plus.
Et vous vous situez, je suis obligée de vous interroger, de vous poser la question, je ne peux pas contourner cette question. Vous en êtes où aujourd'hui avec l'institution Église, avec les prêtres et au fond avec le bon Dieu ? Parce que vous, dans votre livre, votre grand-mère était très croyante, elle a été très affectée par cette histoire. Donc cette grand-mère s'appelle Catherine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Mais j'ai perdu la foi, c'est une évidence. On ne peut pas penser que quelqu'un en soutane puisse se livrer à des crimes. Et que le bon Dieu, lui, il y est pour rien, le bon Dieu. Il est là-haut. Le bon Dieu, il est là-haut, lui. Il y est pour rien qu'il ait des gens qui sont détordus. Donc moi, je ne crois plus à la religion, je ne crois plus à rien. Mais j'ai gardé des contacts avec des gens qui sont devenus des amis. Bon, je vous rassure, ils se sont mariés parce qu'ils ont vu qu'ils avaient fait une erreur. Donc les prêtres de l'époque ont trouvé compagne et se sont mariés. Bon, ils sont devenus des amis très proches. Et je leur dis, toujours en riant, je dis, c'est ce que tu as fait de mieux, parce que sinon tu aurais été en prison. Tandis que là, marié et une vie normale, c'est très bien.
Non, mais rien à voir aussi avec... c'est aussi un autre sujet.
Bien sûr que ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, oui, voilà, telle qu'on la connaît. L'Église catholique, il y a des gens bien, il y a des gens honnêtes. Quand je parle, moi, de M. Mika...
Un grand respect pour Monseigneur Mika.
Ah, j'ai un respect énorme.
Je l'appellerai Monseigneur et vous l'appellerez Monsieur
Mika.
Oui,
bon, je vais l'appeler Monseigneur, ça va vous faire plaisir. Moi, c'est un mec extraordinaire. Moi, j'aurais jamais pensé un jour avoir à ma table... j'ai eu l'évêque de Bayonne, mais l'évêque de Bayonne, il n'a pas de mémoire. Donc l'évêque de Bayonne, il ne se souvient de rien. Mais Mika, Monsieur Mika, c'est un mec formidable.
Alors permettez-moi, mais qu'est-ce qu'il a de plus, Monseigneur Mika?
Mais
c'est un cœur de pasteur, un cœur de père.
Monseigneur Mika représente est pour un homme normal.
Alors c'est quoi pour vous un homme
normal?
Alors
un homme normal, c'est un gars qui écoute.
Et dans l'institution église, c'est
voilà,
quoi un homme normal?
Voilà, il est dans l'institution église, c'est un gars qui écoute, mais qui entend surtout. Parce que d'autres n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Tandis que Mika, lui, il entend et il comprend. Et quand j'ai mangé la première fois avec lui, il était ahuri de ce qui avait été fait à l'encontre de ma grand-mère, de lui saisir ses biens. Et c'est vrai qu'il a été ébahi d'entendre que cette pauvre femme, on était dans la misère, on puisse encore lui saisir ses biens.
Alors, il vous écoute peut-être aujourd'hui, il est peut-être sur la route.
S'il m'écoute, je le salue.
Voilà, s'il vous écoute,
je le salue et je lui dis
un
bravo,
message. Bravo.
Bravo pour tout ce que vous faites et peut-être que vous allez me redonner la foi.
Ouh là là, donc c'est enregistré, ces émissions sont en podcast, donc elles peuvent être écoutées et réécoutées, soyez prudents, hein. Donc c'est précieux. Hein.
Oui,
c'est précieux. À vos côtés, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais vous interroger sur, vous êtes victime d'un prêtre tout comme Jean-Marie, mais c'est pas l'affaire de Bétarame, un prêtre en soutane, mais... je précise, c'est pas une attaque contre l'Église et contre les prêtres, c'est l'écoute des victimes, voilà, cette semaine. Et vous faites partie de ces victimes, Marie-Hélène. Quelles ont été les conséquences et les blessures, des blessures que vous avez encore aujourd'hui? Comment on en guérit? Et est-ce que vous pensez pouvoir guérir de ces blessures qui vous ont été infligées? Enfant.
Oui. Oui, mais comme je dis, il faut rétablir. Il faut rétablir parce que les prédateurs, ils font passer les victimes pour les coupables. Dans les viols, c'est ça. C'est le seul crime, on dit, où la victime se sent coupable. Et c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut bien dire oui, ce sont des hommes d'église, mais ce sont eux les coupables. Et vous, les enfants, et si vous avez refusé de leur obéir pour ça, ce n'est pas vous les coupables. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est ce qu'on a besoin d'entendre pour aller mieux. Parce qu'autrement, on est des survivants tout le temps. Le fait d'être reconnu véritablement, c'est très, très important.
Je pense aux parents qui vous écoutent, qui ont peut-être des enfants, à des grands-parents. Il y a une responsabilité, même encore aujourd'hui. On va terminer ce troisième entretien avec cette question. Que diriez-vous, chacun, très vite, aux parents qui vous écoutent et puis aux grands-parents?
je leur dirais surtout d'écouter les victimes du passé, parce qu'ils croient que maintenant, ils savent mieux faire, les parents, et qu'ils reconnaîtront mieux leurs enfants. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient très vigilants et qu'ils écoutent les anciennes victimes pour pouvoir préserver leurs enfants.
Jean-Marie ?
Et pour moi, ben, j'ai fait ce livre pour que les gens sachent que ça existait, que ben, des prédateurs, il y en a eu, et il faut que les parents soient réalistes quand ils mettent leurs enfants avec des adultes et qu'ils écoutent surtout leurs enfants. Je l'ai dit lors de mes dédicaces, j'ai pu parler avec des enfants et des parents, et je dis aux enfants, surtout, racontez ce qui vous arrive à vos parents. Et je dis aux parents, n'hésitez pas à saisir la justice, que ces affaires prennent fin. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Donc, rétablir la vérité, c'est quelque peu restaurer aussi les cœurs de toutes ces victimes. Et vous faites partie, Jean-Marie et Marie-Hélène, de ces victimes. Donc, je rappelle, chers auditeurs, si vous souhaitez lire aussi l'histoire, hein, l'histoire vraie, hein, voilà, de Jean-Marie Delbos, eh bien, vous avez cet ouvrage, Mon enfance à Bétaram, aux éditions Le Duc. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, Marie-Hélène et Jean-Marc Delbos, demain à la même heure. Merci à tous les deux.